New York University et vos recherches portent entre autres sur la macroéconomie et les finances publiques et vous vous intéressez également aux crypto-monnaies. À Paris, Athanase Karayenga, journaliste consultant, vous avez eu à travailler également avec l'Organisation internationale du travail OIT. Et enfin, à Abidjan, Yves Codibo, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Alors, je vais démarrer justement avec vous, puisque vous êtes le seul syndicaliste du panel. Yves, 3 ans après le début de la pandémie de Covid-19 et plus d'un an de guerre en Ukraine, le travailleur ivoirien, à l'image d'ailleurs de beaucoup de travailleurs dans le monde, est impacté par ces facteurs exogènes. Comment avez-vous vécu ce 1er mai ? Cette année?
En fait, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est une particularité parmi tant d'autres pays parce que la Covid-19, par rapport à toutes les autorités du pays, le travail qu'ils ont effectué, la pandémie n'a pas véritablement impacté tous les secteurs. Parce que au niveau des secteurs, là, l'État a pu mettre en place des fonds qui ont permis à ces entreprises de se réveiller. Donc, au niveau des travailleurs de Côte d'Ivoire, la fête du travail, nous l'avons fêtée avec aisance. On était vraiment très heureux parce qu'on venait à peine d'obtenir un accord portant preuve sociale et l'accord qui a coûté, pendant les 5 ans, là, plus de 1100 milliards de francs CFA. Et on venait à peine aussi de signer un accord relativement à l'augmentation du SMIC. Le SMIC était à l'époque de 60 000 francs et passé désormais à 65 000 francs. Donc on venait aussi à peine de finir.
Ce n'est toujours pas vu le coût de la... Oui, 65 000, 75 000 pour le SMIC. J'ai vu que certains pensent que c'est toujours pas assez, même si c'est une augmentation de salaire, n'est-ce pas?
Oui, c'est une augmentation des salaires, puisque le SMIC était de 60 000 francs ici en Côte d'Ivoire. Mmh. Et par rapport aux discussions que nous avons eues, le SMIC est désormais passé par le décret du président de la République, est passé désormais à 115 000 francs, qui impacte en tout cas beaucoup de familles, beaucoup de personnes. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, la fête du travail s'est bien déroulée, on était vraiment très heureux, mais sans toutefois oublier, on avait vraiment des pensées vraiment du côté de l'Ukraine, parce que ce sont aussi des travailleurs, des camarades de travail qui sont là-bas, qui ont perdu tout leur emploi et puis qui sont aussi en déplacement dans les autres pays.
D'accord,
donc alors... en Côte d'Ivoire, la fête du travail s'est déroulée très bien.
D'accord. Docteur Abdoulaye Ndiaye, comment le contexte international lié à la pandémie et au conflit ukrainien a affecté le marché de l'emploi? Est-ce que les employeurs vont un peu en profiter pour supprimer définitivement des postes?
Oui, alors, le contexte Covid-19 et la guerre en Ukraine a créé des soucis sur les chaînes d'approvisionnement et ceci a affecté et a créé de l'incertitude dans le marché du travail. Et donc on voit que dans beaucoup de pays, ça rend les entreprises réticentes à créer des emplois. Et c'est la répercussion que je peux voir en Afrique. Maintenant, s'agissant globalement du marché de l'emploi en Afrique, notamment les services qu'on vient de voir et le niveau de revenus, je pense que dans les services en Afrique, il y a 2 catégories. Il y a les services, les fonctionnaires et les enseignants. Donc, eux, souvent, quand on regarde les niveaux de salaire qui ont augmenté en Afrique, c'est principalement dans cette catégorie-là. Ils peuvent avoir assez de pouvoir de négociation. Maintenant, il y a aussi une autre catégorie de services. C'est un peu les services privés et les services informels. C'est un peu eux qui souffrent le plus en termes de niveau de salaire, en termes de protection sociale également. Donc, je pense que quand il s'agit du 1er mai et de penser à quelle partie des travailleurs revigorés, c'est un peu cette deuxième partie-là qui souffre beaucoup et pour laquelle les niveaux de revenus et de protection sociale sont très limités. Mm-hmm. Bon, j'ai un peu répondu aux 2 questions.
Oui, tout à fait. Alors, Athanase, dans ce contexte de précarité de l'emploi, est-ce que le rôle des syndicats est un peu forcé de changer? Est-ce qu'il faut changer pour les syndicats, vu un peu le nouveau contexte?
Le contexte actuel, c'est vrai, il est préoccupant, mais ce n'est pas nouveau. Le travail change parce que les sociétés changent, parce que les entreprises changent, parce que les relations internationales changent, parce que les pénuries ou ou les crises d'approvisionnement du carburant, du pétrole changent. Donc ce n'est que normal que les pays, les gouvernements, les syndicats, les entrepreneurs, les populations doivent s'adapter constamment à ce contexte qui change tout le temps. Que ce soit en matière économique, que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière politique, mais surtout aussi en matière démocratique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous parlons de la fin du travail, mais la fin du travail est née dans le sang, dans la répression des travailleurs américains en 1886 ont fait une grève pour réclamer le droit de travailler moins d'heures par jour. Et ils ont subi une répression absolument terrifiante. Et c'est à partir de là que les sociétés ont commencé à réfléchir sur trouver un équilibre satisfaisant entre la création des services et des biens, mais aussi le bien-être des travailleurs. Mais encore une fois, la qualité du travail et le progrès social, c'est l'affaire des syndicats, mais aussi des peuples, mais aussi des gouvernements, mais de tout le monde.
D'accord. C'est pas seulement justement,
les syndicats.
Justement, Yves, les syndicats, est-ce qu'ils ont toujours la force de faire plier les employeurs et les gouvernements? Docteur Ndiaye semblait faire référence tout à l'heure à cette capacité, par exemple, des enseignants qui sont dans le public à se mobiliser davantage et donc d'obtenir, disons, satisfaction de leurs revendications. Comment est-ce que les syndicats se comportent aujourd'hui face, disons, à cette nouvelle situation?
Non, en fait, ce que nous pouvons dire simplement, que ici en Côte d'Ivoire, les syndicats ont assez de force pour pouvoir faire plier le gouvernement. Parce que nous avons adopté une nouvelle méthode qui consiste à privilégier le dialogue social, qui est ici un nouveau paradigme. Il nous a d'ailleurs permis de pouvoir obtenir un accord et cet accord a fait que plusieurs points...
Mais pour le privé, c'est un peu différent, non? Le privé, les employeurs semblent avoir...
Au niveau du privé aussi, c'est la même méthode. Parce qu'ici, la particularité, on a un cadre de discussion. Au niveau de ce cadre, c'était un cadre bipartite entre le patronat ivoirien et les centrales syndicales. Oh, et dans ce cadre-là, ça s'appelle la commission consultative du travail. Et au niveau de ce cadre, nous nous retrouvons et puis on discute à bâton rompu pour pouvoir améliorer les conditions de vie des camarades, des travailleurs. Mais là, il peut arriver aussi dans des entreprises, des discussions aussi. Là-bas, il y a un peu de difficultés parce qu'il y a certains qui n'arrivent pas véritablement à appliquer ces accords. Et c'est à nouveau, on fait appel au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale par le biais de l'inspection du travail qui convoque ces derniers et puis bon, ensemble on trouve une solution. Donc la Côte d'Ivoire, je peux dire que c'est une particularité parmi tant d'autres, mais j'insiste qu'il y a un cadre de dialogue qui existe et qui fait vraiment son bon chemin et qui nous a permis d'obtenir pas mal de gains.
D'accord. Alors, docteur Abdoulaye Ndiaye, on parle de fait du travail, mais l'Afrique est un continent extrêmement jeune et l'écrasante majorité de cette jeunesse est au chômage ou s'active dans des secteurs précaires. Hein. En tant qu'économiste, quelle politique préconisez-vous pour intégrer cette main-d'œuvre dans le marché du travail?
Oui, bon, c'est la question clé. Hein. Je pense qu'on a beaucoup parlé des services, on parlait des enseignants, des autres, mais la base de l'économie en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, c'est l'agriculture. Donc, comment rendre l'agriculture un peu plus performante avec les jeunes? On voit que la productivité agricole est très faible et ceci a souvent été le cas parce que nos politiques agricoles ont été des politiques qui sont à base de projets où on subventionne les inputs. Bon, c'est-à-dire qu'on achète des tracteurs, on ramène les caméras et ça joue politiquement, je pense. Alors que des politiques qui plus subventionnent la production, qui garantissent aux producteurs un minimum de prix, ça peut permettre. Donc ça, c'est
quand les jeunes. Est-ce que les jeunes s'intéressent pas particulièrement à l'agriculture, par exemple?
Bon, bah donc c'est la base de l'économie. Donc la majorité de l'emploi se trouve dans l'agriculture. Donc il y a aussi beaucoup de jeunes dans l'agriculture. Je pense que donc ça c'est un fait qu'il faut d'abord dire. Et maintenant après cette agriculture, on passe aux produits qui sont créés et comment on peut les transformer dans la manufacture. Et pour ça, il n'y a pas vraiment de hub de manufacture qui se crée, qui peut à la fois employer 20 000 jeunes à la fois et qui crée un écosystème qui, florissant. Donc vraiment, je pense que donc, souvent, c'est sur des questions vraiment de financement de ce niveau-là, qui ne demande pas un niveau d'éducation très élevé. Mmh. Maintenant, quand on passe au service, bon, l'éducation, on en parle beaucoup, mais vraiment, ça ne se reflète pas comme priorité dans les budgets. Donc voilà, donc ça se reflète comme priorité, non pas uniquement dans les salaires des enseignants, mais dans les besoins qu'on a dans le capital éducationnel, dans les écoles, dans les formations, dans la qualité des formations. Donc c'est un peu ça qui est plus long terme, ce qui manque également pour les jeunes. Et voilà, donc je pense que c'est un peu, il faut aussi prendre en compte ces jeunes-là qui font au travail qui n'a pas besoin de niveau d'éducation élevé, comme dans l'agriculture et dans la manufacture, et pour eux, c'est pas uniquement par l'éducation.
D'accord. Alors, avant d'aller aux commentaires Facebook des téléspectateurs, Athanase, vous êtes en France, un pays secoué en ce moment par des contestations liées au relèvement de l'âge de la retraite. Le principe du dialogue social est-il devenu un objectif de plus en plus difficile à atteindre?
Non, c'est pas plus difficile qu'avant. Ça sera toujours compliqué, ça sera toujours extrêmement sensible, parce que c'est aussi un débat politique, c'est un débat démocratique, c'est un débat de droit social. Mais pour revenir, permettez-moi quand même de revenir un peu en arrière sur le continent africain. Mmh. Il y a une catégorie de travailleurs qui ne sont pas pris en charge par les syndicats. J'ai été stupéfait de trouver beaucoup d'enfants qui travaillent dans ce qu'on appelle le travail forcé. J'ai participé à des projets de protection de l'enfance dans le travail, justement, dans un pays comme le Niger ou la Mauritanie. Les syndicats ne s'investissent pas beaucoup, pas suffisamment en tout cas, pour la protection et surtout pour l'interdiction formelle et absolue du travail forcé des enfants. Donc, d'accord, pour revenir à la France, c'est tout à fait normal que le débat soit compliqué, parce qu'on est dans une économie mondialisée, on est dans une économie extrêmement complexe, et les syndicats ont un rôle d'interpeller les politiques pour qu'ils imaginent une solution équilibrée, de telle façon que les travailleurs ils trouvent leur compte, mais aussi les pouvoirs publics.
Je donnais juste l'exemple de la France pour parler un peu de la rupture du dialogue social constaté un peu partout. Alors nous allons rapidement passer aux commentaires Facebook de nos téléspectateurs et auditeurs laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Charles Bazema à Ouagadougou nous dit que chaque année, ce sont les mêmes revendications sociales et toujours les mêmes promesses de l'autorité, mais rien ne change. Au contraire, ça empire pour le travailleur, surtout celui du privé, car là-bas, les travailleurs sont laissés à leur sort, pas d'assurance ni de déclaration à la Caisse de Sécurité Sociale. Yao Marcelin Kofi est à Abidjan. Il nous dit qu'il est vraiment difficile de trouver un emploi salarié décent. Les jeunes Africains diplômés sont obligés de gérer des cabines téléphoniques, dépanner des appareils électroménagers pour survivre, puisque nos gouvernants ne proposent pas une bonne politique d'employabilité des jeunes. Même le recours à l'auto-emploi prôné pose problème, car les financements ne sont pas disponibles. Et puis, Alphonse Mbouaki est à Kinshasa. Il écrit « Les travailleurs du futur devront faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et la formation continue va jouer un rôle important pour développer en permanence des nouvelles compétences. » Voilà. Et donc, il anticipe un peu sur le sujet de la seconde partie. Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington Forum, qui revient après une courte pause.
Se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Je rappelle nos invités, vous êtes toujours sur Washington Forum, d'abord de New York, Dr Abdoulaye Ndiaye, qui est économiste.
Je suis désolé, professeur. Je vous entends.
Vous êtes, donc on va revenir vers vous. Vous êtes professeur assistant à la NYU et vous travaillez notamment sur la macroéconomie et les finances publiques. À Paris, Athanase Karayenga, journaliste consultant, vous avez également eu à travailler avec l'Organisation internationale du travail. Et à Abidjan, Yves Codibo, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas si M. Ndiaye nous entend. M. Ndiaye, selon une étude du Forum économique mondial, environ 23% des emplois devraient changer d'ici 2027, ce qui inclut 69 millions d'emplois. Alors, il ne nous entend pas. On va essayer de revenir vers M. Ndiaye. M. Codibo, le téléspectateur de Kinshasa tout à l'heure, dans son commentaire Facebook, parlait de la nécessité pour les employés de s'adapter, mais aussi de se former en continu. Quelle place accordez-vous en tant que syndicat à cette formation de vos membres pour une mise à niveau ?
Oui, la formation, c'est une réalité parce que la centrale Inatercy, Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, met au cœur de leur formation, de sa formation, la priorité des syndiqués, des travailleurs, parce que nous disons que un syndicaliste mal formé est un danger pour toute la société. Donc la priorité de la centrale, c'est de former tous nos camarades. Maintenant, les camarades travailleurs doivent aussi chercher à surtout financer, à surtout former surtout pour qu'ils puissent à l'heure de la nouvelle intelligence artificielle, parce que si tu n'es pas formé, il faut chercher à s'adapter. Donc j'approuve totalement l'idée du camarade de Kinshasa qui vient à peine de l'inscrire au niveau de Facebook.
D'accord. Alors, Athanase, est-ce que vous pensez que les entreprises investissent suffisamment dans la formation et la reconversion de leurs employés pour s'adapter à la nouvelle économie ?
En Afrique ou dans le monde, ou
partout,
en Europe,
oui,
ou en
France.
C'est des situations très inégales, mais en Afrique, particulièrement, je crois que les entreprises ne sont pas du tout incitées à investir beaucoup dans la formation des travailleurs. Mais aux États-Unis, en Europe et en Chine, je pense que les programmes de formation sont extrêmement ambitieux et dynamiques. Mais le problème se trouve plutôt sur le continent africain, où les pouvoirs publics ne sont pas très dynamiques non plus, ne sont pas très créatifs. Et même pire que ça, il y a des pays où vraiment les syndicats, les entreprises privées sont handicapés plutôt par de très mauvaises politiques de gouvernements qui sont des gouvernements de prédateurs, des gouvernements qui ne respectent pas les droits humains. Donc je crois que les situations sont très diverses et très compliquées. Mais en tout cas en Afrique, la formation des travailleurs est très très faible.
D'accord. Alors, je crois que le docteur Ndiaye est avec nous à présent, non ? On me dit qu'on a quelques soucis avec son audio. Alors, pour parler un peu de ces nouvelles technologies, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Hein. Vous pensez que les travailleurs devraient être inquiets ou bien c'est peut-être, un outil pour faciliter la vie aux travailleurs, M. Codibo ?
Non, les travailleurs doivent être inquiets parce que la nouvelle technologie ou l'intelligence artificielle fait supprimer beaucoup d'emplois, puisque quand on parle de robots qui vont remplacer certains travailleurs, en tout cas pour nous, c'est inquiétant, puisque la suppression d'un seul emploi de travailleurs est une difficulté, un tel problème majeur des centrales de l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, le travailleur lui-même avec son employeur ou bien avec la politique devrait chercher à pouvoir former, à pouvoir faire adapter tous ces travailleurs-là à cette nouvelle technologie. Je ne veux pas que ça nous inquiète du tout.
Athanase, faut-il s'en inquiéter, l'arrivée de l'intelligence artificielle ?
Non, je pense qu'on en parle d'une mauvaise manière et d'une d'une manière excessive, mais aussi de façon légitime. Il y a des spécialistes qui sont en train de nous alerter. Les nouvelles technologies ont toujours suscité de l'émotion, de l'inquiétude, ou j'allais dire presque une sorte de crainte de l'avenir, et c'est normal. Mais ceci dit, les technologies d'aujourd'hui, on le voit très bien, les ordinateurs, l'Internet, peuvent faciliter beaucoup le travail dans les entreprises, et surtout dans la gestion des entreprises, de la vente à distance, et tout ça, c'est quand même des secteurs qui peuvent bénéficier beaucoup de l'intelligence artificielle. Mais par contre, là où l'intelligence artificielle est en train de susciter de l'inquiétude, c'est l'utilisation de cette technologie pour inonder le monde avec de fausses informations, de faux portraits, de fausses informations. C'est plutôt dans le domaine de la communication où on peut fabriquer des rumeurs, on peut fabriquer des coups d'État, fabriquer des guerres avec un réalisme absolument stupéfiant. C'est surtout dans ce domaine où les technologies de l'intelligence
artificielle peuvent susciter
de la crainte.
On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Quand même, il faudrait que les travailleurs s'y préparent, surtout en Afrique.
Absolument. Non seulement se préparent, s'en emparent et l'utilisent, que les boulangers utilisent les nouvelles technologies pour distribuer leur pain, que les médecins fassent de la télémédecine, que les enseignants fassent du téléenseignement. Que tout le monde aujourd'hui peut vraiment se servir de cette technologie pour améliorer le travail, améliorer la rémunération, améliorer les droits au travail, améliorer la rémunération. Ce n'est pas du tout une crainte qu'il faut développer ni répandre partout. Au contraire, il y a des aspects très positifs.
Je ne sais pas si M. Ndiaye est là au téléphone. Oui, M. Ndiaye, peut-être vous aurez le dernier mot pour cette émission. L'intelligence artificielle et l'employabilité des jeunes, c'est une menace ou une opportunité?
Oui, alors, bon, excusez-moi, on parle des nouvelles technologies et là, je pense qu'on a eu un problème technologique, je ne sais pas de quel côté. Toutefois, à propos de l'intelligence artificielle, je pense que sur le court terme, dans le monde en général, c'est une menace. Hein. On voit que, bon, déjà, ça augmente la productivité. Il y a eu des études sur ça qui montrent que ça augmente la productivité des gens de 14%. Cependant, il y a beaucoup, certains ont estimé qu'il y a à peu près 300 millions d'emplois dans le monde qui sont en danger, qui peuvent être pris.
Supprimés.
Cependant, je pense que pour le cas de l'Afrique en particulier, c'est plus une opportunité parce que on sait qu'il y a beaucoup de travail digital qui ne peut pas être fait parce qu'il y a beaucoup encore de travail manuel qui est fait, notamment dans les services. Donc, ça donne aussi une opportunité qu'on a enfin la technologie de rendre beaucoup de ces sortes de tâches administratives un peu plus productifs et les faire de façon digitale. Donc, c'est une opportunité qui peut permettre à la fois de synchroniser beaucoup de différentes entreprises afin qu'on utilise le digital plus que le papier qu'on voit toujours dans les services.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ce sera un débat à suivre. Fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre chaîne YouTube. Également notre page Facebook. Merci à toute l'équipe de production. À très bientôt. Au revoir.